Rhume 90.7 en direct pour le Confluence Cinéma de la semaine. Je suis dans les studios avec messieurs Hakim Fdaouche et Raphaël Lorenzo. Bonsoir à vous messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir à toi Amaury, bonsoir à vous auditeurs de Brume.
Alors comment allez-vous? Ça va?
Bien. On est tous ensemble pour une fois là, depuis le début de l'année.
Oui, c'est la première effectivement.
Il faut un début à tout.
Et avec Hakim, on parlait de Momie et de l'avant-première qui a lieu ce soir dans plusieurs cinémas de Lyon.
Oui, dans 3 cinémas, c'est complet de chez complet, mais je vais quand même essayer de me faufiler.
Comédia, Confluence, Institut Lumière.
Institut Lumière. Confluence, je ne sais pas si c'est rempli, mais en tout cas, c'est le gros buzz. Hein.
Alors, on peut parler un petit peu de ce que vous avez vu, de ce que vous allez nous présenter cette semaine.
Alors oui, moi je suis allé voir un homme très recherché, la nouvelle adaptation cinématographique d'un roman de John le Carré. Et je suis également allé voir dans un registre complètement différent le dernier film de Jean Becker, Bon Établissement. Jean Becker, un metteur en scène que j'ai toujours aimé, mais à qui j'ai reproché beaucoup de choses dans son dernier film, que je n'avais pas du tout aimé et que Raphaël avait défendu corps et âme.
Avec Patrick Chenet.
Voilà, et là pour ce film-là, je serais tout aussi sévère.
D'accord, Raphaël, de ton côté?
Des trucs différents aussi de mon côté. Un gros film avec Denzel Washington, Equalizer, adaptation de la série télé des années 80. Et dans un tout autre domaine, aussi un film français, un peu comme Le Becker, où je serais un peu méchant, on va dire. Le dernier film de Tony Marshall, une auteure française, Tu veux ou tu veux pas, avec Sophie Marceau et Patrick Bruel.
Et pour la dernière partie de ce Confluence Cinéma, on reviendra un petit peu sur la carrière et les films de Denzel Washington.
Denzel, ouais, le grand Denzel, l'homme qui a failli jouer Barack Obama.
Alors, qui ouvre le bal, messieurs? Qui présente son film?
Hakim.
Oh, alors je vais dire quelques mots sur un homme très recherché. Donc, comme je l'ai dit, l'adaptation d'un roman de John le Carré. John le Carré, pour ceux qui ne le savent pas, a été pendant très longtemps un espion du MI5, hein, la maison mère de James Bond, hein, comme quoi elle existe vraiment, cette MI5, cette section MI5.
Et après MI6 aujourd'hui.
MI6, oui. D'ailleurs, il était MI5 et MI6. Et après sa carrière d'espion, il s'est lancé dans la littérature et il a commencé à œuvrer dans un genre qu'il connaît bien, le récit d'espionnage, avec des œuvres différentes de celles de James Bond, avec des personnages un peu plus complexes, des situations un peu plus compliquées. D'ailleurs, ça se ressent un petit peu dans l'adaptation d'un de ses livres, qui était La Taupe, qui est un film que j'aime beaucoup, mais qu'il faut voir plusieurs fois avant de tout discerner, tout comprendre, les méandres et toutes les passerelles entre les diverses intrigues. Et là, un homme très recherché, c'est un peu moins complexe, fort heureusement, parce que j'avais un petit peu peur de me retrouver encore devant une intrigue de plus de 2 heures avec des longueurs et des longueurs à gogo. Là, on est à Hambourg. Alors, une ville un peu particulière d'Allemagne, c'est un énorme port, c'est un des plus grands ports de l'Europe, un lieu culturel, multiculturel, avec beaucoup de nationalités qui brassent. Et surtout, alors ça, je ne sais pas si tout le monde a ça en tête, moi, dans le générique du début, il y a un long texte qui le rappelle, je ne m'en rappelais plus, c'est que Hambourg a abrité pendant un moment l'un des trois des terroristes qui avaient piloté les avions qui s'étaient écrasés contre le World Trade Center lors du 11 septembre 2001. Et depuis, Hambourg est vraiment, entre guillemets, au taquet pour essayer de capturer les terroristes qui arrivent dans cette ville. Et c'est le cas d'un jeune terroriste musulman d'origine tchétchène qui arrive sur cette partie nord du territoire allemand et qui va très rapidement se faire repérer par le groupe antiterroriste allemand mené par Philippe Seymour Hoffmann, dont c'est la dernière interprétation à l'écran. Et ce jeune terroriste va essayer de trouver de l'aide auprès d'une avocate humaniste qui est prêt à récupérer ce réfugié politique et à l'aider.
Mais c'est un jeune terroriste supposé ou
non,
ou
c'est un terroriste musulman tchétchène dont le père est russe.
Bah, il a déjà fait des attentats, je veux dire.
C'est oui, pas... et qui sort de prison.
Parce
il
qu'on est quand même dans une époque où beaucoup de gens qui, pour la moindre petite chose, sont
non,
suspectés de
terrorisme. Dans l'histoire, il a fait de la prison en Turquie, à Chypre. Et voilà. Et donc, du coup, il va essayer de récupérer un héritage de son père avec qui il ne s'est jamais entendu, hein, d'un point de vue politique et religieux. Il va tout de même essayer de récupérer cet argent. Voilà pourquoi il demande de l'aide à cette avocate. Et la cellule antiterroriste menée par Philippe Seymour Hoffmann va essayer d'utiliser ce terroriste pour piéger, attention, suivez-moi toujours, un supposé djihadiste, mais qui se cache derrière la facette d'un grand millionnaire, qui fait souvent qui œuvre souvent dans la charité, qui offre beaucoup d'argent à des charités, et le service secret soupçonne qu'il finance l'une des armées djihadistes les plus dangereuses du monde. Donc, on est quand même dans un récit avec beaucoup d'intrigues, de sous-intrigues. Il faut savoir également que la cellule antiterroriste allemande est aussi un peu court-circuitée par leurs homologues américains qui essaient également de mettre la main sur ce terroriste. Néanmoins, je trouve que par rapport à la taupe, le rythme est assez bien soutenu. On suit sans difficulté la traque de tous les personnages et surtout leur trajectoire à travers cette ville cosmopolite qui est Hambourg, qui est vraiment filmée sous tous les angles et dans tous les quartiers. On passe du quartier affaires au quartier populaire, principalement musulman, à la campagne. Et j'ai vraiment trouvé le film assez plaisant à regarder. Alors, on a l'impression de se retrouver devant un film d'espionnage classique. C'est pourtant pas le cas, car à plusieurs moments et surtout à la fin, il y a quelques petits indices qui apparaissent par-ci et là, qui nous préparent à un twist que je ne dévoilerai pas, qui surprend tout le monde, qui a surpris tout le monde, qui fort heureusement n'est pas dévoilé dans les divers papiers qui sont sortis dans la presse. Et Philippe Seymour Hoffman est vraiment extraordinaire. Et ce qui est intéressant en général, quand on voit un film d'un acteur ou d'un réalisateur qui est mort tragiquement et qui nous offre sa dernière œuvre à titre posthume, c'est qu'on est attentif pour essayer de voir si on ne décèle pas dans son jeu quelque chose qui aurait pu nous annoncer qu'il allait disparaître tragiquement. Et là, dans ce rôle, Philippe Seymour Hoffman, on sait que c'était quelqu'un d'assez torturé, d'assez dépressif. Et là, il ne joue pas un rôle... Il joue un rôle qui aurait pu être le sien dans la vie. Il est complètement dépressif. C'est un personnage très Elrolien, sans le côté violent. Il clope tout le temps, il boit tout le temps, il ne dort jamais. Il erre dans les rues de Hambourg, dans ce climat automnal. Et c'est vraiment touchant. Et le film se termine sur un plan que je ne dévoilerai pas, où il quitte sa voiture sous un air assez énervé. Et on se dit, quand même, Philippe, tu aurais pu rester un peu plus longtemps, tu aurais pu nous faire d'autres films. C'est vraiment dommage que tu nous quittes sous cette scène-là, si tragique. Moi, j'ai envie de dire chapeau, très beau film d'espionnage, mis en scène par le réalisateur de The American avec George Clooney, qui, pour le coup, était un film très ennuyant, où il ne se passait pas grand-chose.
Je crois que c'est le jeune acteur, non ? Comment il s'appelle ? Anton comment, c'est le nom du réalisateur ?
Il a un nom, c'est un Hollandais, j'ai un peu charcuté son prénom. Mais voilà. D'ailleurs, je crois qu'en fait, La Taupe avait été également réalisée par un film, non pas par un réalisateur hollandais, par un réalisateur suédois.
C'était Alfredson. Ouais.
Voilà.
Alors, Raphaël, de ton côté, t'es allé voir aussi quelques films cette semaine.
Bah, je vais commencer par le moins bon, comme ça va faire une alternance film américain et film français. J'ai donc vu, comme tout est pensé dans l'émission, j'ai donc vu le dernier film de Tony Marshall, auteur française un peu consacré, avec des succès populaires, on se rappelle et tous.
Vénus Beauté, avec plein de César. Ouais. Avec plein de César.
Beaucoup d'actrices, surtout une troupe d'actrices. Il y avait donc Audrey Tautou, Mathilde Seigné, Nathalie Baye. Une femme qui a passé quand même pas mal de temps dans la comédie romantique, la comédie genre très pratiquée en France ces dernières années. Donc on l'a vu par exemple dans un film qui s'appelait France Boutique, un film complètement oublié avec... Bon, c'est les pompiers, tiens, ça sonne. Ils viennent me chercher. France Boutique, donc, avec François Cluzet et Karine Viard, voilà. Et un dernier film tourné vers chez moi à Condrieu avec Nathalie Baye et Édouard Baird. Donc souvent des comédies romantiques classiques avec l'opposition entre deux êtres qui n'ont rien en commun et qui finalement, à travers une série d'épreuves, etc., vont se mettre ensemble. Elle nous revient avec un casting assez impressionnant quand même dans son dernier film, Tu veux ou tu veux pas, qui réunit pour la première fois à l'écran Sophie Marceau et Patrick Bruel, donc deux stars quand même... ultra bankable, ultra sexué aussi hein, quand même, parce que Sophie Marceau c'est le sex symbole
des années 80,
voilà, de la boom, les tunes, etc. Et idem évidemment pour Patrick Bruel. Et à partir de là, elle va, comme la Bruelmania avait déferlé sur la France il y a de ça 30 ans, et je connais beaucoup de femmes encore qui sont fans de son physique. À partir de ce constat, on va dire, Tony Marshall va faire un film ultra sexué qui retrace l'histoire d'un ancien addict au sexe, donc joué par Patrick Bruel, qui a décidé d'arrêter. C'est un ancien pilote de ligne, il tirait tout ce qui bouge, et ça fait un an qu'il a décidé d'arrêter, et il est devenu thérapeute pour aider les couples. Donc il les aide dans l'amour et non plus dans le sexe. Et il va tomber sur une femme qui s'est fait virer d'une grande entreprise japonaise, jouée par Sophie Marceau, et qui est une nymphomane. Elle se tape elle aussi tout ce qui bouge, et donc la confrontation entre les deux personnages va créer une tension sexuelle latente dans tout le film. Hein, tous les gags reposent là-dessus, hein, c'est-à-dire couchera ou couchera pas, attirance ou pas attirance. Et pour le coup, c'est un film que j'ai trouvé franchement vulgaire, qui n'est jamais drôle, c'est-à-dire toujours dans le graveleux, dans le misogyne, qui est quand même assez rare pour un film tourné par une femme. Hein. Le générique est atroce, on voit des vagins, des tétons, etc. en dessin animé à l'Arrête-moi si tu peux. Sauf que malheureusement, elle n'a pas le talent de Steven Spielberg, cette Tony Marshall. Le film démarre par une scène où Mademoiselle Sophie Marceau se fait prendre par un japonais. Donc ça commence direct comme ça, on sait direct où est-ce qu'on va aller. D'ailleurs, le fond derrière est hideux. Hein. C'est censé être à Tokyo, on voit trop que c'est tourné en fond vert dans un studio à Paris. Quoi. C'est vraiment atroce, c'est vraiment très très laid. Et le film va enchaîner des gags vraiment tous plus vulgaires, tous plus graveleux les uns que les autres. Pour moi, ce n'est vraiment jamais drôle. C'est très très moche et très très mal filmé. Hein. C'est un téléfilm que l'on verra de toute façon sur TF1 ou sur France 2 avec une musique assez déplorable de téléfilm. Et le problème en plus, c'est que c'est misogyne. C'est-à-dire que Sophie Marceau, au fond, elle n'est pas libre, elle ne veut pas des relations sexuelles avec plein d'hommes différents. Elle recherche le grand amour avec un grand A parce que c'est une femme. Voilà. Vous voyez un petit peu la morale.
C'est assez rigolo ce que tu dis sur le truc déjà de Bruel Marceau. C'est un peu quand même les deux icônes des années 80. Quoi.
Tout repose là-dessus.
Côté homme et côté femme. Voilà. Enfin, c'était quand même. Voilà, Bruel et Marceau, c'est vraiment ça. Quoi.
Tout repose là-dessus. On dirait d'ailleurs voir la Boom 28. Tu vois. C'est à peu près la même intrigue que la Boom ou l'étudiante. Ou à l'époque, c'était Vincent Lindon, mais là, remplacé par Patrick Bruel, et c'est la même chose. Quoi.
D'accord. C'est un peu inquiétant pour Sophie Marceau, qui avait déjà fait un film de cette trempe-là avec François Cluzet, hein, dont j'ai mangé.
Oui, oui je ne me rappelle plus. Non. Oui, c'est ça.
Une rencontre que j'ai eue au cinéma.
Oui, tu as une copine, donc forcément, tu dois te taper.
Mais ouais. Moi, figurez-vous, messieurs, quand même, que j'ai joué dans un film de Sophie Marceau qui est sorti il y a quelques années, où j'avais fait un livreur qui va lui livrer des fleurs. Et c'était vraiment pas un bon film.
C'était quel film hein ?
Je sais plus, vous devez savoir ça. Oh, vous, pareil, c'est deux amis d'enfance qui se retrouvent, deux anciens amoureux, il y a une histoire de grotte.
C'est pas avec Christophe Lambert, justement, ça, non ?
Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être
ah, c'est pas la mission de Deauville, quelque chose comme ça ?
Ouais, je sais plus, ouais. Mais...
Bah, je crois que c'était un film qui était mis en scène
voilà,
avec elle,
ça, c'était
horrible.
Pour le clin d'œil, pour vous faire rêver un peu. Mais moi, c'est vrai que Sophie Marceau, il y a quand même belle lurette que je l'ai pas vue dans un bon film.
Et, en même temps, est-ce qu'elle a fait un bon film dans sa vie ?
Ouais, je sais pas, mais tu vois, dans La fille de D'Artagnan, à cette époque-là, etc., elle dégageait ouais. quand même un petit sex-symbole à la française sympathique, quoi. Et moi, Bruel, il y a quand même toute une partie de sa jeune carrière, autant j'ai jamais apprécié le chanteur, mais d'acteur que je
oui,
trouvais,
il se prend pas au sérieux,
je trouvais pas mal, quoi, tu vois, dans les films un petit peu policiers, justement, et tout ça, et c'est vrai que... Là, chaque fois que je le vois à l'écran, ça m'insupporte. Quoi.
Et justement, le film repose essentiellement que sur ça, sur la rencontre de deux icônes sexuelles. L'affiche, c'est justement Sophie Marceau qui pince les fesses à Patrick Bruel. Et dans le film, il y a un gimmick, comme ridicule, où à chaque fois qu'elle veut se taper un mec, elle imagine les hommes autour nus. Et donc, dans tout le film, il y a le gars qui revient de manière plusieurs fois comme ça. Et on voit Patrick Bruel, justement, tout nu. Donc, on voit ses fesses et compagnie. Et au moins, dans le film, elle est complètement bourrée. Elle est vraiment tombée amoureuse de Patrick Bruel. Et là, on a une scène surréaliste où elle rencontre Jean-Pierre Marielle. On ne sait pas pourquoi il est dans le film. Il joue Jean-Pierre Marielle pendant une séquence. On ne sait pas pourquoi. Elle rencontre un autre mec à côté. C'est Patrick Braoudé. Et il est déguisé en écureuil.
Voilà. C'est un hommage à l'esprit Blier et Calmos.
Bon, alors, je préfère Calmos. Hein. Calmos est moins misogyne que ça, en plus.
À en retirer de ce film, alors quoi, il n'y a rien qui t'a...
Non. Non, j'ai souri une fois, voilà, quand j'ai vu Jean-Pierre Marielle qui sort deux, trois trucs sur le cul à Sophie Marceau, comme il sait le faire, et puis c'est tout. Non, c'est vraiment... ça va cartonner, hein, je pense, par rapport à ces deux stars principales. Les dames, les ménagères, comme on dit, de plus ou moins de 50 ans vont adorer le film, je pense.
Ah voilà, le film, moi, j'ai retrouvé, c'est L'âge d'oraison.
D'accord.
On voilà. a marqué l'histoire du cinéma, apparemment.
Ouais, exactement. Eh bien, écoutez, on écoute un premier morceau de musique et on se retrouve après pour présenter d'autres nouveautés de la semaine.
Ok. I was restless. I was young. We'll be right back.
Brume 90.7, vous êtes en direct dans Confluence Cinéma, il est 18h42 et c'est le moment pour nos deux chroniqueurs de repartir un petit peu, nous raconter les histoires cinématographiques de la semaine. Oui. Alors Hakim, tu vas à nouveau reprendre la parole.
Oui, je suis allé voir le nouveau film d'un metteur en scène qui a beaucoup compté dans ma vie de cinéphile, à savoir Jean Becker, hein, qui a réalisé entre autres beaucoup de films dans la région lyonnaise, dans une région qui m'est chère, à savoir l'Ain. Donc j'adore les Enfants du Marais, j'adore Un crime au paradis.
Effroyable le jardin était bien aussi.
Voilà, Effroyable jardin, Dialogue avec mon jardinier. Et je trouve que depuis quelque temps, à savoir depuis un film ou deux, Jean Becker, qui certes prend un peu d'âge, tombe un petit peu dans la banalité. Et on continue un petit peu sur cette même cadence avec Bon Rétablissement, son dernier film avec Gérard Lanvin, qui campe un personnage qui, un beau soir, se retrouve propulsé dans la scène. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi dès le départ, on comprend par la suite qu'il s'est fait percuter par une voiture. Il se souvient de rien du tout, hein, de ce qui s'est passé. Nous, on apprend avant lui qu'il a été sauvé par un jeune garçon qui faisait le trottoir sous les ponts. Et petit à petit, va commencer sa rééducation dans l'hôpital. Et donc, du coup, il est un peu à la Jim Stewart dans Fenêtre sur cour, en plâtré, dans un lit, obligé d'être immobile. Et du coup, obligé de faire un peu le bilan de sa vie, hein, car on apprend au fil de l'histoire, hein, qui n'est pas très long, qui dure 1h20, hein, qui se passe essentiellement dans un hôpital, donc ça sent le théâtre filmé, et la pièce de théâtre au départ.
Le boulevard.
Que cet homme de la cinquantaine n'est pas l'homme idéal, le compagnon le plus agréable. Il a un petit frère interprété par Daroussin. Alors quand on voit les deux personnes, déjà ils ne se ressemblent pas trop et on a un peu du mal à croire que Daroussin est le petit frère de Gérard.
Les retrouvailles.
Mais oui.
Par rapport à nos meilleurs copains de Jean-Marie Poiret, qui est extraordinaire.
Et petit à petit, Gérard Lanvin va être obligé de refaire un peu le bilan de sa vie, d'apprendre à être cordial avec les enfants, notamment à une de ses voisines de chambre, une jeune fille de 14 ans qui est enceinte. Voilà. Puis de recréer des liens avec sa maîtresse, interprétée par Anne-Sophie Lapix. Et oui, Raphaël.
Oui, je l'ai vu chez Michel Drucker.
Une de nos présentatrices préférées. Puis voilà, c'est vraiment le film typique où on met une personne face à son passé et à qui on demande de refaire sa vie et de changer. Alors, pourquoi pas ? Sauf qu'on aimerait bien que ce soit fait avec un petit peu de finesse et d'originalité quand c'est un sujet qu'on a déjà vu plusieurs fois au cinéma. Moi, ce qui me dérange surtout au film, c'est l'un des derniers plans du film. On comprend, là je dévoile un peu le truc, parce que bon, il n'y a aucune...
Je crois que tout le monde s'en fout.
C'est que Gérard Lanvin se retrouve percuté par une voiture parce que son petit chat, un petit chat de gouttière qu'il a récupéré un beau jour, est sorti de chez lui. Donc du coup, en maillot de bain, parce qu'il est en peignoir, il va traverser tout Paris et à un moment donné, il va se faire percuter par une voiture. Et à la fin, quand il rentre chez lui, après plusieurs mois à l'hôpital et après un regard, une analyse dans la glace... Il retrouve son chat. Il rentre chez lui et le chat frappe à la porte.
Un visuel suspect peut s'accrocher.
Et voilà. Et voilà, c'est un peu trop gentil pour moi. Je ne suis pas du genre pessimiste. J'aime bien les films drôles, les films pleins de joie, ce qu'il faisait avant, Jean Becker. Mais là, j'ai envie de dire stop.
C'est trop, pour toi.
C'est trop, voilà, c'est trop télescopé. C'est trop... On voit tout arriver à l'avance. Ça manque d'originalité et de finesse. Bien que Gérard Lanvin et l'ensemble des acteurs soient bons.
Pour faire une révélation comme... Maurice, j'ai participé au casting du film en tant que figurant.
Oui, parce que le film a été tourné en partie à Lyon.
À Lyon, et j'ai été allègrement refusé. Voilà.
Sérieux ?
Après, les Lyonnais, moi, les films avec Lanvin, j'ai du mal. Bah, je ne pas être figurant sur les films de Lanvin.
Je te voyais mal en infirmier ou en kiné.
J'aurais pu faire le malade.
Bon, et justement, Monsieur Lorenzo, vous êtes allé voir un autre film, il me semble.
Alors oui, quelque chose de complètement différent. Là, pour le coup, un gros film, un film d'action, on pourrait dire, ou du moins un vigilante movie, un genre que Hakim... adore et vénère, je crois.
Quand c'est justifié, quand il y a une analyse et quand il y a un jugement sur les actes des protagonistes d'un vigilante movie.
Et bien là, justement, ce n'est pas du tout le cas, puisque c'est vraiment le film d'action pour le coup. Donc, c'est l'histoire de Robert McCall, qui est une sorte d'ermite, un solitaire. On le voit au début du film, il se rase le crâne. Il vit comme un moine dans son appartement. Il n'y a quasiment pas de meubles, il n'y a pas de télévision. Il ne fait que lire. Il lit Le Vieil Homme et la Mer, il lit Don Quichotte, etc. C'est un homme brisé, on comprend au fur et à mesure du film, et il va tomber, en fait, comme il est insomniaque, sur une jeune prostituée dans un diner américain. Il va la rencontrer, ils vont parler ensemble.
Il conduit pas des taxis la nuit.
Non. Et justement, on pense à Taxi Driver, puisqu'elle fait penser à Jodie Foster, puisque c'est une jeune femme qui a 15 ans, d'origine russe, etc. Donc il la prend un peu sous son aile. Et lui, qui finalement réclame... Une vie tranquille, on sent qu'il a un passé, mais on ne sait pas trop quoi au début du film. Il vit de travaux chez le Bricorama du coin, en fait. Donc il coupe des plans, etc. Il entraide un obèse à devenir canal à la sécurité dans le centre commercial, en fait. Il aide plein de gens autour de lui. Et cette jeune femme va donc se faire tabasser, quasiment à mort par ses proxénètes, donc des mafieux russes. Notre ami Denzel Washington va arriver et va massacrer, après une sorte de négociation ratée, ces gens-là, en fait.
Il n'aurait pas pu appeler la police faire ça.
Non. Et non, et du coup, la police mène un peu l'enquête, on comprend que c'est des flics ripoux, et la mafia va lancer à ses trousses un groupe de mercenaires, surtout dirigé par un ancien du KGB, pour effectivement trouver qui a fait ces meurtres qui sont... parfait, c'est-à-dire aucune sauvagerie. Donc ils comprennent que le mec en face est quelqu'un qui connaît la criminalité, qui connaît le monde de la sauvagerie, de la barbarie, et ici s'y prend en tout cas. Et on va comprendre que ce mec, ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien de la CIA. Il va réactiver ses réseaux à travers un personnage joué par Bill Paxton et sa femme qui est Melissa Leo, donc un petit caméo de deux grandes stars américaines qui est assez sympathique. Et on va le suivre comme ça au fur et à mesure, lutter contre ces mafieux. Dans un vrai film d'action.
Mais est-ce qu'on nous explique pourquoi cet ancien agent de la CIA se retrouve à vivre en ermite dans un appartement vide, à se raser le crâne ?
On ne saura jamais exactement la raison dans le film. De toute façon, il y a une raison, on sait qu'il est veuf. Mais il y a d'autres raisons, mais qui sont bien mystérieuses. Je ne vais pas les dévoiler, parce que ça fait un peu partie du personnage. Hein. Et il faut rappeler que le film est une adaptation de série. Hein. C'est The Equalizer, une série des années 80 très populaire avec Edward Woodward. C'était un acteur anglais qui a joué dans deux films mythiques en Angleterre, qui sont The Wicker Man, qui est une intrigue policière assez barrée, et une autre intrigue policière qui l'a fait ressortir de sa retraite, qui était Hot Fuzz. Il rejoue dans Hot Fuzz, c'est le grand-père qui supervise tout le complot dans le film de Gary Wright, hein, donc un rôle quand même crucial. Hein. Et le film reprend cette intrigue de justicier, ancien de la CIA, qui prend sous son aile finalement des gens faibles, des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir une protection, etc. Donc vraiment le justicier, un peu comme Batman, on pense aussi à ça. Et moi, franchement, j'ai...
Oui, mais Batman, c'est pas pareil, c'est un justicier qui veut remettre l'ordre, hein, et reprendre la justice, qui livre ses victimes à la police, qui ne les tue pas pour son compte. Hein.
Oui,
c'est
oui.
Différent.
Oui, mais en tout cas, il y a ce côté-là, tu vois ce que je veux dire, la ville, le justicier...
Et puis il se masque pas, Denzel Washington. Hein. Il est,
oui, mais il se crée une entité, on va dire, tu vois, comme je te dis, il se rase le crâne, il a un certain... Il a comme un uniforme, il est toujours habillé de la même manière. Enfin, il y a vraiment ce côté-là quand même pour effrayer ses ennemis, une iconisation.
Mais est-ce qu'il y a un jugement du réalisateur sur les actes de son protagoniste ? Est-ce qu'il dit bon, ces actes-là ne sont pas bien moralement, etc., etc. Ou est-ce qu'il se contente de jouer avec jouissance, avec plaisir les actes vengeresses de son
personnage ? Franchement, non, puisque c'est pas le sujet du film. Au début, ça commence comme un vigilante. Effectivement, il va protéger une prostituée, mais ça va vraiment finir comme un film d'action. Et je suis pas de ceux qui pensent qu'il faut forcément un point de vue moral sur un film.
Sur des sujets bien précis.
Le public est assez grand pour, je pense, faire la distinction, on va dire, entre le bien et le mal. C'est pas un film, de toute façon, à mettre devant les yeux d'un gamin de 8 ans, parce qu'il est extrêmement violent quand même. Il y a la fin, c'est maman, j'ai raté l'avion en mode justicier, c'est-à-dire que Denzel, il va massacrer à coups de perceuse, à coups de barbelé, etc. Donc c'est vraiment barbare. Mais il y a ce côté vraiment film d'action. C'est vraiment le film du dimanche soir, quoi. Il n'y a pas de... C'est un film quand même tout public, tu vois ce que je veux dire. C'est pas Taxi Driver, c'est pas les Charles Bronson, etc.
C'est un film qu'on oubliera dans quelques années.
Oui, mais en tout cas, je pense qu'il n'a vraiment aucune prétention que de divertir. C'est vraiment le film d'action du dimanche soir, quoi. C'est vraiment ça.
En même temps, tu parlais de Batman, Hakim, mais c'est vrai que moi, le personnage de Batman m'a toujours déplu pour ce côté quand même hyper réac, quoi. Enfin,
tu vois, mais ça, c'est ce que Frank Miller a voulu donner au personnage de Batman. Ça, c'est différent. Je veux dire, le personnage à la base créé par
Bob
Kane en 39 n'a pas les mêmes fonctions, n'a pas la même vision de la justice que ce que Frank Miller va donner dans les 80.
Ah, quand même, par rapport à Spider-Man, par exemple, ses actes sont quand même motivés par un truc très moraliste.
Bah,
très,
la perte de ses parents.
Non, oui, puis la corruption de Gotham,
etc.
Puis c'est aussi un du film noir à l'époque aussi. On est en plein dans cette époque-là, hein. La littérature à bol des compagnies. Mais pour en venir un peu sur le film, on sent quand même qu'il surfe sur la vague des vigilantes qu'on a eues ces dernières années, donc c'est-à-dire à vif avec Jodie Foster, Death Sentence avec...
Ah, mais Death Sentence, c'est un film un film très intelligent qui avec, pose la question sur doit-on faire la vengeance par soi-même ou pas.
Voilà, ou même, c'est un très bon même Vengeance aussi de Junito dernièrement qui parle un peu de cette question. Quelles sont les motivations de la vengeance? Et on pense évidemment, c'est pas anodin, A Man on Fire de Tony Scott avec Denzel Washington.
Ce film, qui est une honte, ce film.
C'est un chef-d'œuvre.
Mais théoriquement, c'est honteux,
laisse-moi,
c'est vicieux.
Laisse-moi finir. Et on sent qu'il sort surtout sur le succès de Jack Reacher, le dernier film, enfin l'un des derniers films de Tom Cruise.
Qui est génial, ça par contre. Ça, c'est un très bon film.
Mais qui est plus dans l'esthétique, on va dire, tu sais, Nouvelle Hollywood, Dirty Harry, Bullitt, Steve McQueen, tout ça. On sent qu'ils veulent surfer là-dessus et que c'est la pure franchise. On sent que c'est une franchise adaptée d'une série. La suite est déjà prévue, puisque le personnage, on sent qu'il peut revenir dans plein de films, dans plein de missions différentes.
Et comme c'est un... juste ici dans la vie. Oui, 1, 2, 3, 4, 5.
Mais c'est pas un focard. C'est quelqu'un qui veut la justice, qui a des valeurs morales. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure pour le portrait de Denzel Washington. Et c'est ça, quoi. Tu vois, le film, c'est un film à franchise, un film du dimanche soir. Et par contre, même si je m'en aimais le film, c'est réalisé par Antoine Fuqua, qui est un tâcheron, on va dire, hollywoodien, mais qui sait quand même faire son boulot. Donc, tu as des plans super iconiques sur Denzel, sous la pluie. Il fait le boulot, quoi. 60 ans, au niveau action, voilà, il fait le boulot. Et on sent une envie quand même chez lui de jouer, contrairement à Bruce Willis et tous les autres.
Et bah, ça nous fait une belle transition pour notre troisième partie, où on va revenir... Sur justement Denzel Washington, sa carrière et aussi un petit peu ses grands films après la musique. Brume 90.7, vous êtes en direct dans Confluence Cinéma et nous approchons 19h et c'est le moment pour nous de parler d'un grand acteur américain qui est Denzel Washington. Alors je vois déjà que les avis sont partagés.
Non, mais moi c'est juste que c'est un acteur qui m'a, contrairement à Raphaël et apparemment toi Maurice, c'est un acteur qui ne m'a jamais fait fantasmer, qui ne m'a jamais fait rêver. Il se trouve qu'il y a pas mal de films dans lesquels il a joué que j'aime bien, mais à aucun moment quand je me remémore ces films, que ça soit Inside Man, que ça soit par exemple American Gangster, quoique non, je ne suis pas trop fan.
Malcolm X quand même, il est
ouais, mais je sais pas, j'arrive à me rappeler sa performance, à aucun moment j'arrive à me rappeler son visage, à aucun moment je me dis ce type a une carrure,
un physique, Philadelphia, attends quand même, tu te rappelles de ce personnage,
moi, je l'ai vu il y a 6 ans, mais tu parles de Philadelphia, pour moi c'est Tom Hanks qui me revient en tête. C'est pas un acteur qui me marque, c'est pas un acteur qui... J'ai pas l'impression que cet acteur a apporté quelque chose dans un genre cinématographique quelconque. Alors effectivement, si vous me dites qu'il a la classe avec un flingue quand il shoot des gars pour se venger, j'ai envie de dire non, excuse-moi, non, ça me paye... Non, moi j'ai un.
Eh ben justement, ça m'a justement, c'est pas ça.
Cet acteur ne m'a jamais attiré.
C'est pas,
c'est
pas que ça, Denzel Washington.
Bah, peut-être que tu as 10 minutes pour me prouver le contraire et pour me convaincre.
Alors bah vas-y Raphaël, commence-nous ben, un petit peu la bio de ce brave homme.
Et ben là cette année il fêtait 60 ans. C'est un comédien donc qui est né dans l'État de New York. Son père est pasteur, ce qui peut expliquer aussi pas mal de choses. Tu parlais de l'évocation un peu chrétienne avant dans le précédent film, mais ça peut expliquer des choses pas dans le côté religieux, mais dans le côté valeur que maintient Denzel Washington. Sa mère est une femme on va dire de peu, hein, c'est une esthéticienne hein, donc une femme un peu normale, une femme humble, et il va très très vite faire des études. Denzel, il va faire des études en journalisme d'abord, médecine biologie. Il va vite se réapproprier vers le journalisme et il va découvrir là-dedans le théâtre. Et il va commencer par des pièces shakespeariennes justement, qui va vraiment le marquer pendant toute sa filmographie. Il va jouer notamment Othello, qui est quand même un rôle quand même assez marquant pour lui et qui va lui donner le goût comme ça du jeu. Il va faire plusieurs séries télé, hein, c'est un peu le cas de beaucoup de comédiens à l'époque, hein, qui commencent à la télé, il fait beaucoup de séries. D'ailleurs, à l'époque, il refuse le rôle de Sonny Crockett dans Miami Vice de Michael Mann, qui aurait pu lui donner déjà à l'époque...
La série, tu veux dire.
La série, oui, une envergure... C'est la plus grande série à l'époque, hein, Miami Vice, une envergure vraiment internationale. Il la refuse, il la décline. Il va jouer dans l'un de ses premiers films, c'est pas anodin, une figuration dans Un justicier dans la ville de Michael Winner en 1974, qui explique aussi peut-être les Man on Fire et les Equalizer aujourd'hui. Hein. C'est au moins, on peut lui reconnaître ça, on va dire, un choix, une ligne auquel il suit hein, depuis des années. Hein. Il est vraiment concret depuis des années, respectueux de ses valeurs, on va dire. Il va véritablement exploser avec Cry Freedom, donc un film réalisé par Richard Attenborough, hein, qui était le metteur en scène de Gandhi. Un film qui va...
Il nous a quitté il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, il est mort il y a cet été.
Il nous a quitté
ouais.
Cet été.
Un metteur en scène qui a fait pas mal de choses différentes, d'ailleurs. Et là, c'est plus dans la veine de Gandhi, donc c'est un film plus politique, hein, qui est l'une des grandes veines aussi de Denzel Washington. Un film sur l'apartheid, donc encore une fois sur la défense des Noirs, hein, c'est une cause qui lui est très très chère, hein, la communauté noire. Et il va se faire nommer pour la première fois à l'Oscar du meilleur second rôle. Il ne va pas le gagner, il va le gagner avec une autre fresque historique sur les Noirs, qui est en fait Glory, donc un film sur la guerre de sécession. Là, il va remporter l'Oscar du meilleur second rôle, et c'est à peu près dans ces années-là, donc on est au début 90, qu'il va rencontrer Spike Lee. Spike Lee qui est vraiment, on va dire, son Martin Scorsese à lui, on pourrait dire, hein, son alter ego mettant en scène. Hein. Ils vont tourner 4 films ensemble, ils vont tourner Mo Better Blues, ils vont tourner Malcolm X, peut-être leur collaboration la plus connue et la plus impeccable, la plus aboutie, voilà, chercher le mot.
Bah, où là, il est quand même impressionnant, quoi. Ouais. À la fois dans la ressemblance qu'il peut avoir, mais aussi dans ce qui dégage quand même, c'est quand même un grand biopic, quoi.
Ouais, et à l'époque, d'ailleurs, juste après Malcolm X, il va refuser le rôle de Martin Luther King. Donc, il aurait pu faire les deux grandes figures noires. Il a refusé justement pour ne pas se faire enfermer en tant qu'acteur noir uniquement. Quoi. Il continue sa collaboration avec Spike Lee sur d'autres films. He Got Game, que Amory aime beaucoup, un film sur le basket. Fait qu'une histoire paternelle et un fils qui a commis un crime, qui est un film pas mal. Il a fait le dernier film de Spike Lee, un film d'action d'un thriller,
Insane Man
avec un braquage.
Qui est passé complètement inaperçu et qui est pourtant un des meilleurs films que Spike Lee ait fait.
Pourtant c'est une œuvre de commande. Et c'est vraiment un film qui est ultra personnel pour les deux, puisqu'ils arrivent à placer plein de trucs sur l'Amérique post 11 septembre, sur les communautés. Il y a ce plan, c'est que l'Indien, tu sais, avec le turban qui est balancé par la police, etc. Donc on retrouve quand même cette dimension-là, même dans les films de commande, on va dire politique, ou du moins engagé de la part de Denzel Washington, qui est démocrate. Hein. Il est assez proche de Barack Obama. Hein. C'est pour ça que je faisais la blague tout à l'heure. Hein. Beaucoup de gens veulent qu'il joue le rôle d'Obama un jour au cinéma. Il va aussi évidemment exploser à l'époque, donc on est en 93, dans Philadelphia, autre film politique on va dire, puisqu'il défend un séropositif, donc incarné par Tom Hanks. Et là effectivement il va enchaîner plein de sortes de films, il va enchaîner des films d'action, beaucoup chez Tony Scott, qui est aussi l'autre grand metteur en scène qui va le...
Et Ridley Scott, les deux.
Oui, Ridley Scott, mais il a fait un seul film avec Ridley alors qu'il en a fait 5 avec Tony Scott.
USS Alabama,
ils ont fait ensemble Déjà Vu, L'attaque du métro 1, 2, 3... Unstoppable, et il manque le dernier qui est donc Man on Fire, qui est, je pense, leur plus grande collaboration. Je sais que. Ah, on a un peu de casette Tony là. Non, mais sur le niveau de l'image, etc., on retrouve vraiment toute la patte de Tony Scott. Et on retrouve le sel de Denzel qui est les valeurs. Je pense que c'est un acteur de valeur, comme Kevin Costner, je pense, aussi dans un autre domaine. Denzel Washington est profondément marqué, je pense, par des vraies valeurs américaines que sont la famille, l'effort, par exemple, on retrouve ça dans Equalizer, le travail.
Et la justice, alors ?
La justice, on retrouve ça dans Man on Fire, par exemple.
Excuse-moi, non, il n'y a pas de justice, je veux dire. Dans ce genre de cas, quand tu te, dans un cas de vengeance, quand tu te fies la justice, tu ne prends pas les armes et tu ne décides pas de te faire vengeance toi-même.
Bref, ça, c'est les questions morales. Voilà, c'est les questions morales. Après, tu es pour ou contre, mais je te parle de ses valeurs.
Ouais, mais je trouve que c'est pas quoi, c'est pas, ça ne cohabite pas.
Ah bah ça, je ne sais pas, il faudra lui dire. Mais en tout cas, il y a cette défense, en tout cas, des opprimés. Ça, c'est un truc qui est dans tous ses films. Des petites gens, peut-être que c'est un de ses parents. Voilà, son père qui est pasteur, sa mère qui est esthéticienne. Donc, il a joué des gens, on va dire, très, très humbles, très normaux. Quoi. Il a joué un cheminot chez Tony Scott. Il a joué des flics. Là, il joue dans Equalizer, un mec qui vend du bois. Tu vois, c'est des gens vraiment américains qui travaillent. Quoi. Des gens de l'Amérique, des gens de tous les jours. Et on peut dire aussi... Voilà,
donc, ça se rapproche un peu plus du côté républicain.
Oui, mais il est pourtant démocrate.
C'est ça que c'est ambigu quand même.
Ouais, mais bon, enfin, tu vois, quand tu joues pour Spike Lee, des rôles comme ouais. lesquels ce qu'il a fait, enfin, ça m'étonnerait vraiment que bah ce soit non, un républicain.
C'est comme
Dennis
Hooper, c'est comme Carpenter qui a fait jouer plusieurs fois. Comment il s'appelle ? Décidément, je perds la mémoire. Son acteur fétiche, là.
Quatre-Selles.
Pourtant, mais c'est des gens qui extrêmement droite, sont opposés. Hein.
Mais ils s'en cachent pas, Quatre-Selles.
Ouais, mais je dirais, comme quoi, des acteurs et des metteurs en scène qui ont des avis politiques différents peuvent cohabiter, peuvent travailler ensemble. Bah, George Romero avec comment ça s'appelle
bah,
avec...
Regarde Delon avec Godard, regarde ouais, voilà. tout un tas de...
Ouais. Sauf que Delon et Godard, ça a été un seul film. Mais regarde,
oui, mais Romero... Il a bossé avec plein de réalisateurs d'extrême gauche, Delon.
Chez Spike Lee et je pense Denzel Washington, leur vrai point commun, après, je ne sais pas, dans leur vie poétique, c'est la communauté noire, voilà. C'est la défense des Noirs. Mmh. Et ce qui est génial avec Washington, c'est qu'au fond, il a réussi à créer des personnages, des rôles où finalement, la couleur de peau, on s'en fout. Quand on voit Flight, par exemple, le dernier Robert Zemeckis, qui est sur l'alcoolisme, c'est un rôle qui aurait pu être tenu par Tom Hanks ou par Russell Crowe, par exemple, sans qu'on... Voilà. Il n'y a aucun moment où on interpelle sa couleur de peau. Et je trouve que c'est une valeur... une autre dimension du personnage Washington, quoi. C'est un homme qui est capable à la fois de passer dans des drames comme Philadelphia ou même des films politiques comme comment il s'appelle Les Marches du Pouvoir, je crois, de Ciné Lumet. Je sais plus comment il s'appelle, à Montréal, toi qui es un fan de.
Je sais plus, je me rappelle plus. Mais moi, ce qui me frappe, tu vois, ça rejoint ce que tu dis, c'est pouvoir. Que physiquement aussi, tu l'as dans ton salon. Il peut autant être un pasteur ou un gentil. Employé américain comme un mec vachement plus truand ou flic. Enfin, tu vois, il a aussi un physique hyper passe-partout, quoi.
D'ailleurs, il a eu l'Oscar pour un rôle de flic ripou dans Training Day. Et c'est le deuxième acteur américain noir à gagner l'Oscar du meilleur acteur après Sidney Poitier, qui est l'une de ses grandes références aussi, Sidney Poitier.
Et après, ça a été Forest Whitaker qui, pour moi...
Et il y a aussi Ray Charles avant.
Jimmy Fox.
Voilà. Ouais. Mais c'est un mec qui a fait beaucoup pour la communauté noire, qui a beaucoup de rôles différents. Voilà, maintenant, il est plus peut-être dans le côté action, mais en même temps, il y a un an, il a fait un drame. Voilà, il est capable de tout jouer. C'est un homme qui est fidèle aussi.
Il a fait de la comédie.
Il y a toujours une part de comédie dans ses films, je trouve. Même dans Equalizer, on trouve une vraie
fille comique avec des gags, avec des.
Non, quand même pas.
C'est un acteur qui pourrait nous faire rire.
Non, c'est pas comme voilà, c'est comme Day Lewis, quoi, si tu veux, Washington. C'est un vrai acteur de composition qui d'ailleurs est très proche de la méthode de Stanislavski. Il le dit. Hein. C'est un homme qui improvise beaucoup, qui passe beaucoup par la gestuelle, qui passe beaucoup par le regard et pas beaucoup finalement sur le dialogue. Et on retrouve beaucoup ça dans le dernier, je trouve, qui est intéressant, qui n'est pas un grand film, tu vois, mais on retrouve ça, c'est un film qui capte beaucoup le regard de Denzel Washington, qui est très intense, on comprend, je vais te tuer, quoi. Tu vois ce que je veux dire, t'as pas besoin de 15 lignes de dialogue quand t'es un bon acteur, avec une stature pareille, une élégance pareille, et des fois, il est capable de passer, je sais pas moi, d'Humphrey Bogart dans Inside Man, à des purs rôles à la Sidney Poitier, quoi. Et c'est un vrai caméléon pour moi.
Ok, bah écoute, merci bien pour ce petit retour sur la carrière de Denzel Washington. Alors messieurs, ça va être temps pour nous de nous quitter, mais on se retrouve la semaine prochaine avec un programme bien chargé, parce qu'on reviendra justement sur la sortie de Mommy. Il y aura aussi la présentation du Festival Lumière qui commencera le lundi d'après. Il y aura pas mal de choses, quoi.
Le dernier film de David Fincher.
En plus,
oui, la grande sortie.
Un polar, encore une fois,
adapté de Gillian Flynn. J'aurai le temps de voir le film, mais oui.
Tu risques d'aimer, il paraît que c'est De Palmier. Hein.
Tant mieux. Mais c'est vrai que j'ai revu l'abondance sur les affiches. Ils insistent pas trop sur le nom de Fincher. Ils rappellent que c'est réalisé par le réalisateur de Zodiac et de Seven. Mais ouais, c'est, en tout cas, oui, ça donne envie.
Eh bien, écoutez, bonne semaine à vous, en tout cas.
Au revoir.